Donc bonjour à tous, on va commencer. Donc bien que vous, bienvenue aux étudiants du BUT Information et Communication en deuxième année pour assister à la dernière ressource consacrée à la culture numérique. Donc là aujourd'hui, on va parler, ou il va être question plus exactement, de désinformation et d'esprit critique. Donc comme vous le savez, la conférence dure entre 1h et 1h20 et elle sera suivie d'un échange avec le public. J'espère que vos questions seront nombreuses. Donc avant de commencer, je vais présenter Virginie Bagneux. Donc déjà, je tenais aussi à remercier Virginie Bagneux d'avoir accepté d'être présente ici parmi nous. Donc qui est Virginie Bagneux? Virginie Bagneux est maître de conférences en psychologie à l'Université de Caen. Donc elle travaille au laboratoire de psychologie à l'Université de Caen et ses travaux de recherche portent principalement sur l'esprit critique. Alors elle va évidemment vous expliquer ce qu'elle, elle entend ou ce qu'est l'esprit critique en psychologie. Et nous travaillons, alors peut-être on va faire un petit chose personnelle, professionnelle, depuis janvier 2024, nous travaillons ensemble. Nous avons mené un projet qui avait été financé par l'OTAN. Et à l'automne dernier, je vous en avais parlé, nous nous sommes retrouvés, notamment avec Virginie Bagneux et d'autres chercheurs français et estoniens, à Tallinn et à Tartu, et nous avons justement rencontré les acteurs principaux sur cette question qui est extrêmement importante en Estonie, puisque vous connaissez le contexte avec les Russes, etc., avec le discours, le narrative, le Russian narrative qui revient souvent. Vous avez dû en entendre parler ce week-end. Ben, nous, on en a entendu parler pendant cette semaine tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. Et donc, on s'est justement intéressé justement à cette question de désinformation. Et ce que Virginie a apporté à ce groupe de recherche, et ce qui a été vraiment capital et clé, c'est cette notion d'esprit critique. Donc aujourd'hui, elle va essayer de vous... elle va présenter sa conférence qui porte sur la désinformation, comment développer son esprit critique. Virginie, je te laisse la parole.
Merci Cécile, merci pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, ne connaissant pas du tout votre niveau de connaissance sur la question à la fois de la désinformation et de l'esprit critique, j'ai assumé le choix de rester assez généraliste sur la question, mais bien évidemment, au moment des questions, si vous souhaitez aller plus en profondeur sur un sujet, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre si je le peux. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'esprit critique, mais finalement, on se rend compte que peu de gens savent véritablement de quoi il est question, et il y a une confusion forte qui est faite entre développer son esprit critique et être éduqué aux médias, à l'information. Alors, peut-être recontextualisons les choses. On est aujourd'hui en 2025, et depuis les 25 ans maintenant, on assiste à ce que le sociologue Gerald Brunner appelle la dérégulation du marché de l'information, qui est, que l'on doit à Internet, qui a mis au même niveau des interlocuteurs avec des niveaux d'expertise qui sont très différents, et qui sont des canaux de communication avec une très forte hétérogénéité. On a des experts de la question, des vulgarisateurs et aussi des novices, des gens qui sont engagés sur la question et d'autres qui sont dans une recherche d'exactitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un marché cognitif, pour reprendre un autre terme de Gerald Brunner, qui propose un certain nombre de croyances non fondées, de théories conspirationnistes qui aujourd'hui ont plus de tribunes qu'elles n'en avaient auparavant, dû au relais informationnel qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et depuis quelques années, quelque chose qui se quantifie d'un point de vue scientifique, une défiance qui monte vis-à-vis de la science et des institutions de manière générale. Alors, cette dérégulation du marché de l'information, elle va se voir être amplifiée par un phénomène récent, puisque désormais l'intelligence artificielle est en libre circulation sur la toile, et on a une activité humaine qui est aujourd'hui en compétition avec une activité issue de robots, qui sont plus ou moins bienveillants vis-à-vis de l'exactitude et de l'ambition informationnelle. Et on le voit ici avec cette statistique, l'activité humaine ne représente a priori que 50% de l'activité informationnelle sur la toile. Donc, quand on parle de marché cognitif, c'est bien de savoir un petit peu les tendances. Hein. Vous avez un certain nombre d'instituts qui font des statistiques régulières sur nos comportements de consommation informationnelle, avec par exemple l'Institut Reuters. Donc, dans cet institut, on suit les canaux de communication par lesquels les Français, pas que les Français d'ailleurs, un certain nombre de citoyens issus de divers pays dans le monde s'informent. Et la tendance que l'on observe déjà depuis plusieurs années maintenant, c'est que les Français, tout comme beaucoup d'autres concitoyens du monde, s'informent de plus en plus sur la toile, hein, en ligne. Et deux tendances s'opposent. La première, c'est une décroissance significative de la presse écrite au profit d'un autre canal qui est les réseaux sociaux. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, je pense que Cécile, elle vous en a déjà parlé, donc moi, je ne vais pas revenir spécifiquement sur ce point, mais on voit qu'il y a des préférences et ces préférences sont différentes selon les pays. Donc, en France, en 2024, Facebook, sur la population française globale, hein, pas spécifiquement les jeunes, puisque ce classement serait un petit peu différent. Pour la France, c'est Facebook qui vient en premier lieu pour s'informer, suivi ensuite de YouTube et d'Instagram. Alors vous allez me dire, c'est un comportement qui est lié à notre envie d'être en connexion avec le reste du monde et notamment des gens que l'on connaît, certes. Mais quel est notre degré de confiance par rapport à notre activité informationnelle en ligne ? Eh bien, les Français sont assez sceptiques, puisque dans le classement des 47 pays interrogés dans cette étude, nous sommes seulement 31% à considérer que ce que l'on perce, ce que l'on lit en ligne, est digne de confiance. Donc on fait partie des pays qui sont parmi les plus sceptiques. On est dans le bas du classement, on est 38e sur 47. Ce qui indique que, en France, en fait, le niveau de confiance global n'est pas très très élevé vis-à-vis de nos médias. Un autre élément statistique pour contextualiser cette conférence, c'est la notoriété de l'IA, hein, qui ne fait que croître depuis mai 2023. Avec ChatGPT en premier lieu, et puis désormais une offre qui ne fait qu'augmenter. Donc sur 1107 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, hein, on remarque que l'utilisation des IA reste a priori minoritaire, mais elle progresse, hein, puisque ce chiffre est passé de 16% à 25% en un an. Avec ChatGPT en premier lieu. Les IA génératives, elles sont plus démocratisées aujourd'hui dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle, puisque 48% de ceux qui les utilisent dans ce contexte considèrent que leur entreprise les encourage dans cette voie. Ils sont de plus en plus nombreux, hein, on est passé de 25% à 36% en un an. Et puis, la perception que l'on peut avoir de ces IA génératives, c'est que globalement, elles nous font gagner à la fois en temps et à la fois en productivité. 38% d'entre nous le pensent. Par contre, un point négatif, c'est que ces IA génératives véhiculent un certain nombre de craintes parmi les Français. Ce 79% déclare être inquiet vis-à-vis de l'émergence de ces IA génératives. Et ce chiffre va en augmentant, puisqu'il n'était que 68% l'année précédente. Les préoccupations portent essentiellement sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Et vient bien après l'évocation de la désinformation et de la menace informationnelle globale. Dernier point, les utilisateurs des IA restent plus convaincus que ceux qui ne les utilisent pas du bienfait d'utiliser les IA et d'y avoir recours dans leur vie professionnelle comme personnelle. Donc on voit qu'on a une culture numérique hein, qui est assez spécifique et qui va plutôt dans le sens d'une augmentation de leur utilisation, ce qui pose la question de la désinformation, donc de la manipulation d'une information et de la transmission d'un certain nombre de fausses informations ou de ce qu'on appelle de fausses croyances. La littérature scientifique documente de plus en plus les réelles conséquences que peut avoir cette dérégulation du marché de l'information sur tout un tas de domaines. Alors, je ne vais pas tous les évoquer, mais je vais vous en donner quelques exemples. Et dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'écologie, les conséquences peuvent être, dans certains cas, assez dramatiques. Peut-être avant tout, mettons-nous d'accord sur une terminologie, puisque quand on parle de fausses croyances ou de croyances non fondées, il est important de définir ce que l'on entend par là. Et dans la littérature, on a tendance à retrouver trois grandes catégories de croyances non fondées. Les croyances dites paranormales, donc celles qui, si elles s'avéraient vraies, en fait, violeraient tous les principes que l'on connaît actuellement du monde dans lequel on vit, et donc de la science. Les croyances dites pseudo-scientifiques, donc ce sont les croyances relatives à tout un ensemble de présomptions non validées scientifiquement, mais qui utilisent le langage scientifique pour se vendre et donc pour prétendre être efficace ou utile. Enfin, dernière catégorie, les théories du complot. Donc, les théories du complot sont des tentatives d'expliquer un événement en faisant référence à une machination secrète qui serait voulue par une communauté cachée et souvent qui a le pouvoir, des organisations puissantes. Ce qu'elles ont en commun, alors elles ont beaucoup de spécificités, elles ont des prévalences qui sont différentes selon les strates de la population interrogée, les cultures, etc. Et elles ne répondent pas non plus aux mêmes besoins. On ne croit pas pour les mêmes raisons en l'homéopathie ou en l'astrologie qu'on croit aux théories du complot. Mais elles ont toutes un point commun, et c'est celui ici qui va nous intéresser pour cette conférence, c'est qu'elles ne reposent sur aucune démonstration empirique. C'est-à-dire qu'aucune donnée probante issue de l'empirisme ne conduise à considérer que ces postulats sont fondés. Donc, toutes ces croyances sont sans preuve empirique. Alors, je vous ai parlé de prévalence, justement, c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui, dans la population ici jeune, donc les 18-25 ans, opposé aux personnes un peu plus âgées, les seniors, quelle est la prévalence de ces différentes croyances non fondées. Donc il y a tout un tas de sondages en ligne qui sont publiés régulièrement. Et ce que le corpus de scientifiques remarque, c'est que ces prévalences, globalement, elles vont plutôt à la hausse, quels que soient les sujets sur lesquels on interroge les publics. Donc, pour vous donner quelques exemples, suivez les flèches rouges qui sont au tableau. Donc, par exemple, prendre un protocole à base de chloroquinine est un traitement efficace contre le coronavirus. Eh bien, on a 25% des jeunes qui adhèrent à cette idée, contre 18% chez les seniors. Concernant le réchauffement climatique, les seniors considèrent avant tout que c'est un phénomène naturel contre lequel on ne peut rien faire, contre 29% dans la population jeune. Donc c'est des prévalences qui sont assez importantes parce que si vous regardez votre voisin de droite et votre voisin de gauche, entre vous et eux deux, il y en a un de vous trois qui adhère à ce genre d'idées. Encore une fois, elles ne sont pas fondées empiriquement. Autre point, ces croyances en les superstitions, les croyances à caractère occulte ont tendance à augmenter, c'est-à-dire que la tendance va à la hausse avec une prévalence plus importante de manière pratiquement majoritaire chez les jeunes par rapport aux seniors. Donc ça veut dire que vous, puisque vous êtes concernés par cette tranche d'âge, hein, il me semble, eh bien, par rapport à vos grands-parents, voire à vos parents, vous avez tendance à plus croire en l'existence des esprits, à la réincarnation, aux fantômes, aux marabouts, aux sorcières. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces croyances-là, elles sont corrélées positivement avec notre utilisation des réseaux sociaux, notamment pour s'informer. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'un est la cause de l'autre. Par contre, il semble que ce lien se retrouve de manière assez robuste à travers les études et que notre culture informationnelle soit corrélée avec nos croyances. Qu'en est-il, autre question, de la confiance que les jeunes portent aux réseaux sociaux, et notamment lorsque ces personnes n'adhèrent pas adhère à des contre-vérités scientifiques. Bien là aussi, en fait, on remarque que plus on a tendance à faire confiance aux médias sociaux, plus on a tendance à croire, plus on a tendance à faire confiance à ces réseaux sociaux. Et cette confiance, elle est indexée sur nos croyances. Donc plus on croit en des croyances non fondées, en fait, plus par ailleurs on a tendance à faire confiance à ce que l'on perçoit sur les réseaux sociaux. Enfin, dernière statistique, après promis, je vous laisse tranquille. Est-ce que, cette défiance vis-à-vis de la science dont j'ai parlé en introduction se retrouve ici ? Eh bien, en fait, quand on interroge les jeunes et qu'on leur demande si la science, pour eux, apporte à l'homme plus de bien que de mal, ou plus de mal que de bien, ou à peu près autant, on voit qu'entre 2022 et 1912, il y a eu une évolution majeure des réponses, puisque désormais, en 2022, les jeunes étaient 17%, c'est-à-dire 11 points de plus qu'en 1972, à considérer que la science apportait plus de mal que de bien. Alors, en psychologie, l'idée, c'est d'établir des liens entre des phénomènes. Hein, donc ici, l'existence de fausses croyances dans les populations, et d'en constater les conséquences directes et indirectes, donc ici à un niveau individuel, sur la qualité de vie, la santé, mais aussi sur des dimensions sociales. L'idée serait donc, c'est ce qu'on entend dans nos politiques publiques et dans nos politiques éducatives aujourd'hui en France, qu'en développant l'esprit critique, on pourrait enrayer cette relation de cause à effet. Parce que je crois en l'amant si. Du coup, je vais voir mon horoscope, où je définis ma carrière professionnelle en fonction de ce que mon astrologue a pu me prédire. Mais il y a encore plus efficace, finalement, en termes d'intervention, lorsque on développe notre esprit critique dans l'objectif, en fait, de prévenir l'installation, la cristallisation de fausses croyances dans nos esprits. Et là, j'ai envie de vous interroger, à votre avis, qu'est-ce qui vient avant l'installation de nos fausses croyances. Alors, tout un ensemble de variables, j'imagine, auxquelles vous pensez. Déjà, moi, j'ai envie de vous dire, elles ont toutes en commun une chose, c'est qu'elles passent par notre système de pensée, par notre cerveau. Donc je reviendrai sur cette interface qu'on utilise pour entrer en contact avec le monde. Mais il semblerait bien que la manière dont on traite l'information, alors information au sens très large du terme, hein, c'est à la fois l'information média, mais aussi l'article dans un journal scientifique ou l'article dans Le Monde, ou encore ce que peut me dire ma mère ou ma voisine sur l'état de la grippe en France. Donc ces manières de traiter l'information, eh bien, la littérature documente qu'elles sont à l'origine de notre adhésion à un certain nombre de fausses croyances et qu'elles sont aussi la conséquence, par exemple pour les théories du complot, d'être plus susceptible d'exprimer des attitudes racistes, hein, comme on a pu le voir, ou de violences politiques, comme on a pu le voir avec l'attaque du Capitole il y a encore très peu de temps. Le fait d'adhérer à des théories du complot, c'est aussi en lien avec une pratique plus pauvre en santé, donc d'avoir moins recours aux traitements médicaux efficaces. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais peut-être que quand on est conspirationniste, en réalité, on a plus d'esprit critique que les autres parce que on n'adhère pas à la théorie générale, celle à laquelle tout le monde adhère. On va plus loin, on cherche des explications alternatives, on enquête. Et donc, en fait, adhérer à des théories du complot, c'est justement la preuve qu'on a plus d'esprit critique que les autres. Alors, il se trouve que, justement, dans cette communauté qu'est les conspirationnistes, on a ce type de discours. Donc, avec des collègues, chercheurs, on a tout simplement essayer de tester le lien qui existe entre adhésion aux théories du complot et compétences, capacités d'esprit critique. Alors comment on a fait ? On a mené une étude corrélationnelle toute simple qu'on a répliquée quand même trois fois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré sur des étudiants de licence de plusieurs niveaux de psychologie dans trois universités françaises les tendances d'adhésion aux théories du complot. Et on a ensuite demandé à ces mêmes étudiants de résoudre une tâche d'esprit critique où il s'agissait pour eux de débusquer les argumentations fallacieuses dans un essai fictif portant sur une situation de la vie quotidienne. L'idée, c'était de dire, si effectivement les conspirationnistes ont plus d'esprit critique que les autres, alors le fait d'adhérer aux théories du complot devrait être associé à un plus haut score à cette tâche d'esprit critique. Et en fait, bien que la corrélation ne soit pas très forte, c'est-à-dire que le lien n'explique pas beaucoup de variances communes, on a à chaque fois répliqué un lien négatif, c'est-à-dire que plus les étudiants de psychologie ont tendance à adhérer aux théories du complot, moins ils avaient un score élevé de performance pour débusquer les argumentations fallacieuses dans l'exercice qui leur était proposé. Alors ça semble clore un débat sur la question. Non, adhérer aux théories du complot n'est pas une manifestation d'un esprit critique plus aiguisé. En tout cas, cette relation serait plutôt inverse. Dans la continuité de la démonstration de l'impact de notre traitement de l'information sur nos fausses croyances et donc sur nos conséquences de vie, vous avez également le cas de toutes les médecines alternatives. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la liste de ces médecines, mais l'idée, c'est toute prétention de guérison en dehors ou d'amélioration d'un état émotionnel, comme le stress, les émotions négatives, qui ne relève pas de la science, c'est ce qu'on appelle les médecines alternatives. Et la littérature documente, d'un point de vue empirique, plus on adhère à ces médecines alternatives, moins par ailleurs on a l'intention d'utiliser des traitements avérés efficaces. On est moins susceptible de vacciner nos enfants. Et récemment, avec l'épidémie du Covid, on a montré qu'il y avait une mortalité plus importante, notamment chez les patients atteints de cancer, lorsqu'ils adhéraient à la médecine alternative que quand ils n'y adhéraient pas. Ces résultats-là nous alertent sur l'idée que s'il y a un point sur lequel il faut être intransigeant, c'est bien sur la négociation d'une existence soi-disant bienveillante des fausses croyances dans nos esprits. En fait, les conséquences de ces fausses croyances peuvent être graves. Et donc, l'idée n'est pas, quand on fait l'esprit critique, de dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils n'ont pas à faire. Par contre, de leur permettre de faire des choix de manière éclairée pour éviter que ce genre de conséquences ne s'opèrent en dehors de leur volonté. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais un peu tordre le cou, puisque c'est une idée qu'on entend souvent. Oui, mais moi, madame, vous savez, je vais sur les réseaux sociaux, mais quand j'y vais, je sais que ce que je lis, c'est faux, je n'y fais pas confiance, et donc, au final, ça n'a pas d'influence sur moi. Ces fausses croyances, elles glissent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Oui, mais non, en fait. Croire ça, c'est une erreur, parce que la littérature en psychologie montre qu'on a ce qu'on appelle des effets d'influence persistante qui s'opèrent. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est que une information, elle rentre dans notre système de pensée et souvent on l'associe à l'idée que cette information n'est pas correcte, d'accord ? Sauf que au fur et à mesure du temps qui passe, quand on la réactive en mémoire, systématiquement avec cette étiquette « c'est faux, c'est faux, c'est faux », eh bien il y a un risque qu'avec le temps, cette étiquette associée comme quoi elle est incorrecte, disparaissent ou se perdent en fait dans les associations d'idées que l'on peut faire, et qu'au final la seule chose qui persiste dans notre système de pensée, c'est l'idée en elle-même et plus sa connotation erronée. Donc par exemple, dans des études expérimentales, on faisait lire un cas fictif de dossiers judiciaires concernant un accusé, et on livrait des circonstances aggravantes ou au contraire des circonstances qui rendaient le coupable moins coupable d'un point de vue moral. Et on demandait ensuite aux étudiants d'évaluer la peine et la culpabilité du coupable. Et puis ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait « Ah, excusez-nous, on s'est trompé. En fait, ces informations-là n'étaient pas correctes. On va vous demander de réitérer votre jugement, mais cette fois-ci sans tenir compte de ces informations qui sont erronées. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à un groupe contrôle qui n'a jamais été exposé aux informations qui ont été réfutées, eh bien, on observe un écart de jugement. Dans le sens où, si les informations erronées étaient aggravantes, eh bien, le jugement de culpabilité est plus sévère, quand bien même on est précisé au sujet que ces informations aggravantes ne doivent pas être prises en compte pour le jugement. Donc c'est ça l'effet d'influence persistante. On a un effet résiduel de n'importe quelle information dès lors qu'elle rentre dans notre système de pensée. Donc se prémunir de ces expositions, c'est un premier levier de prévention pour limiter les conséquences délétères de cette désinformation. Je crois qu'après cette introduction qui illustre les influences de la désinformation sur nos comportements et sur le climat social, eh bien, il s'agit désormais de se poser la question de la pertinence d'éduquer, de développer cette notion qui est l'esprit critique. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit critique et aussi qu'est-ce que ça n'est pas ? Peut-être commençons par là, puisque l'esprit critique, ça n'a rien à voir avec l'éducation aux médias et à l'information. Amy. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on étudie les comportements de connexion, comme c'est illustré ici par les travaux de Cordonnier et Brest, on voit que finalement on va sur la toile pour plein de raisons très 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 différentes, et que s'informer, eh bien ça ne représente finalement que 3% de notre activité en ligne. Donc éduquer aux médias et à l'information, ben, c'est pas finalement agir sur un levier très important en termes de consommation en ligne. Deuxième point, c'est que quand on parle d'esprit critique, l'idée c'est avant tout de définir un objectif. Pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour lutter contre la propagation des fake news ? Est-ce que c'est pour prévenir ou accompagner l'IA ? Voilà. Quels sont les véritables objectifs de cette éducation média à l'information d'un côté et de ce développement de l'esprit critique de l'autre côté ? Troisième point, Au-delà même du contenu de ce qui peut être recommandé pour lutter contre la désinformation et développer l'esprit critique, il y a très peu de travaux qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'incarnation du savoir. C'est cette idée que la dématérialisation entraîne également une déshumanisation. Et quand on cherche de l'information, autrui a un rôle essentiel, puisque quand on parle d'esprit critique, on ne parle pas d'esprit critique autonome, tout seul dans son coin où on refait le monde, mais bien d'esprit critique au sens connaissance collective, consensus collectif autour de ce qu'est le savoir, de ce qu'est une connaissance. Ceci étant dit, cette première distinction étant faite, deuxième question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que l'esprit critique, c'est naturel ? Par exemple, est-ce que les enfants ont un esprit critique spontané qui se développe ? Alors, les travaux sur ces questions vont à peu près tous dans le même sens. Oui, assez jeune, dès 3 ans, il y a des critères très importants de discernement de la vérité, en fait, qui s'étayent, qui s'illustrent dans les comportements des enfants. Et par exemple, dans cette expérience de Harris et Corniveau, ils présentent des interlocuteurs familiers aux enfants. Et ce que l'on sait, c'est que quand on est très jeune, quand on a 3 ans, eh bien, l'interlocuteur familier est toujours privilégié par rapport à l'interlocuteur qui n'est pas connu par l'enfant. Donc le parent, généralement, l'enfant fait plus confiance aux parents qu'à un étranger. Est-ce que comment l'enfant renverse cette idée-là ? Parce qu'un parent, il n'a pas toujours raison. Un interlocuteur familier, la familiarité de l'interlocuteur, ce n'est pas forcément un critère très pertinent. Donc, ils ont présenté ce stimulus d'un animal hybride entre une vache et un cheval aux enfants. Et vous aviez le référent familier qui, soit... face à ce type de stimulus, disait toujours correct, enfin donnait toujours une réponse correcte, ou alors se trompait systématiquement. Et donc, ce qui illustre les résultats de cette expérience, c'est que quand on a 3 ans, eh bien, entre la source familière qui se trompe tout le temps ou la source familière qui ne se trompe jamais, il n'y a pas vraiment de discernement, puisque en fait, c'est la familiarité de la source qui prévaut. Donc, on a toujours confiance en cet interlocuteur. Par contre, on voit qu'à 4 ans et à 5 ans, cette tendance a tendance à se creuser. Eh bien, on commence à voir un discernement sur la crédibilité, c'est-à-dire que l'enfant, bien que la source soit familière, l'enfant va préférer s'orienter vers l'interlocuteur qui ne s'est jamais trompé auparavant par rapport à celui qui a commis des erreurs. Et ce que montrent les travaux de cet article, c'est que ceci est vrai même lorsque c'est un étranger. Donc on finit par préférer un étranger qui ne se trompe jamais à un parent familier qui, lui, se trompe. Donc ce discernement de crédibilité, c'est un des premiers critères sur lequel l'enfant devient expert assez naturellement pour discerner la vérité. Ensuite, vers 4 ans, la crédibilité en termes d'expertise se manifeste. Donc les enfants préfèrent emmener la voiture qui est malade chez le garagiste plutôt que de l'emmener chez le médecin. Et à l'inverse, lorsqu'on est malade, il vaut mieux aller chez le médecin que chez le garagiste. Donc cette notion d'expertise émerge vers 4 ans. Et entre 7 et 10 ans, la perception qu'un adulte peut mentir avec un but, avec un motif à distordre la vérité, commence aussi à s'élaborer. Donc finalement, les travaux développementaux montrent que penser de façon critique a tendance à augmenter avec l'âge et que, quelles que soient les capacités mentales des individus, tout le monde pourrait bénéficier d'une instruction à l'esprit critique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par esprit critique ? C'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de collègues, notamment des philosophes de Genève, qui ont interrogé les théories naïves sur qu'est-ce que c'est l'esprit critique. Et quand on croise ça avec les définitions issues de la littérature, on constate qu'il y a des dimensions sur lesquelles on est tous d'accord. Et premièrement, c'est que l'esprit critique, c'est avant tout un état réflexif. Réflexif sur le monde qui nous entoure. Et que cela renvoie à différentes facettes, à différentes dimensions. Donc par exemple, pour reprendre Ennis, l'esprit critique, c'est une pensée raisonnable, réflexive, focalisée sur le fait de décider quoi croire et quoi faire. Donc une définition assez générale qui ne date pas d'hier finalement, puisque déjà en 1910, on observait chez Dewey l'idée que la pensée critique, c'est un examen rationnel de la validité, de la solidité des raisonnements, des arguments, des preuves, des justifications à l'appui d'une croyance. Et puis la littérature s'est étayée et a commencé à pointer une complémentarité dans le processus d'esprit critique, parce que d'un côté nous avons tout un ensemble de compétences, d'habiletés à penser de manière critique, et ces compétences, quand bien même on les aurait, si nous n'avons pas une motivation, une tendance spontanée à utiliser ces compétences, eh bien, elles restent inutiles, en fait. Donc, c'est l'aspect dispositionnel de la pensée critique qui est très important, dans le sens où il va permettre à l'individu de mettre à l'œuvre les compétences qu'il a concernant tout un ensemble de tâches très distinctes les unes des autres et qui renvoient des processus cognitifs très très différents les uns des autres, comme par exemple l'analyse de l'argumentation, la question des raisonnements inférentiels ou déductifs, tout ce qui est jugement, évaluation de la qualité ou des critères de l'information, et jusqu'au processus de prise de décision et de résolution de problèmes. Encore une fois, tout ça, ce ne serait rien si l'individu n'est pas intrinsèquement animé d'une ouverture d'esprit, d'une curiosité, d'une envie d'impartialité, d'une flexibilité également dans son réseau de croyances et de connaissances, et dans ce désir d'exactitude, c'est-à-dire d'être bien informé. D'accord ? Si on s'en fout d'être bien informé, eh bien en fait, avoir ces compétences ne sert à rien. Dans l'éducation nationale, cette idée très complexe d'esprit critique n'est pas aisée ni à développer ni à mesurer. Et donc, les travaux de certains collaborateurs ont eu pour objectif de donner une définition un petit peu plus opérationnelle, notamment à destination de la classe. Alors, ses collègues, avec la revue Littérature, ils ont proposé une définition qui me semble assez intéressante. C'est l'idée que, en fait, l'esprit critique serait une capacité à calibrer notre confiance sur le résultat de notre évaluation de l'information. Et cette évaluation de l'information, elle ne se ferait pas n'importe comment. On parle de qualité épistémique, c'est-à-dire que sur un ensemble de critères prédéfinis, on serait amené à déterminer si cette information est vraie ou est fausse ou moins fausse. Donc finalement, l'esprit critique reviendrait à ajuster sa confiance sur la qualité de l'information. Donc croire fortement en une information qu'on a jugée fiable, finalement, avec un examen approfondi de la question, et ne pas croire en une information qu'on a finalement jugée peu fiable. Donc concrètement, quand on est sur la toile, connecté à notre ordinateur ou à notre téléphone, eh bien, on a besoin de faire preuve de ce qu'on appelle une vigilance épistémique. Alors, c'est des questions très simples. C'est que vaut l'argumentation ? Que vaut les preuves ? Que valent les preuves que l'on m'apporte ? Ça, c'est pour déterminer quoi croire. C'est évaluer le contenu de l'information. Et ça, normalement, c'est autosuffisant. C'est autosuffisant quand on a les compétences sur le sujet concerné. Quand on est expert du domaine, ben, il suffit juste de cette phase-là. Et après, on peut juger de la confiance qu'on a ou pas à allouer à l'information. Mais dans la plupart des situations, on n'est pas expert du domaine. Moi, je ne suis pas experte de la théorie de l'évolution. Je ne suis pas experte en astronomie ou en physique quantique. Donc, dans ces cas-là, deuxième aspect, la source de l'information est primordiale. Parce que, du coup, je dois juger de la fiabilité de cette source sur, pareil, tout un ensemble d'éléments. Donc, est-ce qu'elle est objective? Est-ce qu'elle est experte? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle a un intérêt à me convaincre? Quelque chose à vendre, peut-être? Qui sont des éléments indirects qui peuvent me donner des indications sur la fiabilité de l'information également? Et enfin, dernière question, c'est ce qu'on appelle l'humilité épistémique. Hein, c'est cet état métacognitif, donc réfléchir sur comment je réfléchis. Cette métacognition, c'est évaluer à chaque instant si je suis efficace pour évaluer cette information et ajuster ma confiance. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que si je me rends compte que je me trompe, je suis prête à changer d'avis? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances sur la question? Quels sont les moyens, les processus par lesquels je réfléchis et qui peuvent peut-être éventuellement m'induire en erreur? Donc c'est ça, cet aspect métacognitif qui est essentiel en parallèle de cette vigilance épistémique pour me garantir que mon ajustement de la confiance sera bien indexé sur la fiabilité de l'information. Donc développer un esprit critique, c'est à partir d'une base d'esprit critique naturelle que je vais outiller pour essayer de l'optimiser plus rapidement avec des stratégies. Donc les stratégies, c'est toutes les compétences qu'on a pu voir. Évaluer l'information sur des critères de véracité. Donc est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est suffisamment rigoureux? Tout en ayant à l'esprit que notre manière de penser, eh bien, on doit y réfléchir à chaque instant. Donc on a des critères hein, qui ont été délimités par un certain nombre de travaux, notamment ceux du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Si ça vous intéresse, je vous ai mis les sources dans le diapo. L'idée là, c'est sur le temps qui me reste avec vous, de vous parler des fausses bonnes idées pour développer notre esprit critique, hein, et de discuter aussi un petit peu des preuves de qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va ? Ça va pour le moment ? J'ai perdu personne ? Alors, peut-être première question, quand il s'agit de développer notre esprit critique, en réalité, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Ça, c'est une vraie première question, et là, on est vraiment dans l'aspect métacognition de l'esprit critique. Le but, c'est quoi ? C'est d'être autonome dans mes prises de décision, de jamais me tromper, d'avoir toujours raison, d'éviter de tomber dans des pièges qu'on peut me tendre, juger de la fiabilité d'une production, par exemple, discerner si ça vient de l'IA ou non. Ça, c'est propre à chacun. Mais en gardant à l'esprit quand même que l'idée derrière, c'est d'éviter de tomber dans des conséquences, directes ou indirectes, hein, qui sont délétères pour nous ou pour notre climat social. En tout cas, ça, c'est ce qui m'anime, moi. Donc, dans cette perspective, j'aimerais vous emmener dans mon monde, celui de la psychologie expérimentale, et vous faire toucher du doigt deux, trois petites choses pour vous aider à répondre à ces questions de, ben, finalement, pourquoi esprit critique? Alors, je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau, hein, c'est une machine exceptionnelle qui a un pouvoir d'adaptation hein, qui est assez fascinant. Parce qu'il joue le rôle donc, d'interface en fait, entre le monde extérieur et ce que l'on va produire comme réponse pour nous y adapter. Et si on prend les choses de manière linéaire, mais il faut imaginer que ce que je suis en train de vous décrire, c'est en réalité un système très, qui s'auto-alimente, hein, très récursif. D'abord, je vais prendre connaissance du monde qui m'entoure. Ça, c'est plutôt l'aspect perception. Donc, c'est nos yeux, c'est nos oreilles, c'est la kinesthésie. Donc, on va faire que ce qui est à l'extérieur de notre système de pensée rentre dans notre système de pensée pour qu'on puisse ensuite produire une réponse. Eh bien, ces systèmes de perception qui sont adossés à ce qu'on appelle l'attention, donc un processus qui dirige, oriente nos systèmes perceptifs, eh bien, ils ont des propriétés qui leur sont propres, propriétés de fonctionnement, qui nous permettent d'appréhender le monde d'une certaine manière et qui, dans certaines situations, nous conduisent à commettre des erreurs. Ce sont ces fameux biais dont on parle beaucoup, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, quand on parle de biais en psychologie, on parle de quoi ? Biais, ça vient des mathématiques à la base, et cela fait référence à un aspect systématique dans l'erreur qui a pour origine les propriétés de fonctionnement du mécanisme qui l'a produit. Donc on voit les choses d'une certaine manière, on a des cônes, des bâtonnets dans l'œil, du coup les contrastes, on les voit d'une certaine manière, les couleurs d'une autre, etc. Et ça, ça conditionne évidemment notre perception du monde. Ce que vous savez aussi peut-être, c'est qu'on a une attention qui est limitée. Là, ça fait déjà 40 minutes qu'on a commencé la conférence, vous commencez à être un petit peu fatigué. Donc c'est le moment où je vais essayer de redynamiser votre attention, la refocaliser sur ce que je suis en train de dire, en vous présentant des choses un petit peu rigolotes, un petit peu dynamisantes. Ces erreurs que l'on commet, en fait, elles sont liées à notre manière de fonctionner. Alors je vais vous donner un exemple de biais perceptif. Est-ce que vous connaissez cette illusion, l'illusion de l'échiquier d'Adelson ? Ma question est la suivante. À votre avis, entre A et B, quelle est la case la plus claire ? Qui répond B ? Levez le doigt. OK. Qui répond A ? Okay. Est-ce que vous voulez répondre autre chose ? Oui ? Alors en réalité, ces deux cases sont d'un gris absolument égal. C'est-à-dire que si on fait une analyse chromatique de la diapositive, en réalité, A et B sont des cases grises et exactement du même contraste, du même mélange des trois couleurs. Alors pourquoi on a cette illusion ? Ben, ça vient des propriétés intrinsèques de notre système perceptif qui, du fait qu'il y a ce cône vert, vous fait vous représenter l'échiquier en trois dimensions et vous fait percevoir du coup que B, comme il est entouré de noir, il doit être plus clair que A, qui lui est entouré que de blanc. Donc on a ici une reconstruction de la troisième dimension par notre cerveau, qui fait que en fait on perçoit d'une certaine façon, mais en fait on interprète les couleurs d'une autre façon. Et ça, vous avez beau le savoir, en fait, vous ne pouvez juste rien contre ça. B est forcément perçu par tout le monde comme étant plus clair que A. Autre exemple, je n'ai mis aucune animation dans mon diapo sur cette image. Si vous la regardez bien, il y a des chances que vous voyez la boule en fait bouger autour du pilier. Là encore, c'est une illusion d'optique hein, qui. Il faut que vous regardiez les choses et que vous la fixiez et vous allez la voir bouger. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc, j'aurais pu passer ma conférence entière hein, sur les illusions d'optique. L'idée là, c'est juste de retenir que. En science, le témoignage ne peut pas constituer une preuve, puisque en soi, en fait, notre système perceptif a des propriétés qui font que certains stimuli, on ne peut pas les percevoir comme ils sont vraiment, en fait. Il y a un autre point, c'est le mécanisme de diffusion de l'information. C'est intéressant, quand on est sur la toile, de comprendre comment les relais informationnels s'opèrent et quelle est l'influence que cela a, du coup, sur la qualité de l'information qui nous est transmise. Et ceci pour illustrer les biais attentionnels dont je vous parlais à l'instant. Donc, imaginez que je vous raconte ce que j'ai fait ce week-end, et puis que vous le racontiez à votre voisin ou votre voisine, qui lui-même va le raconter à son conjoint ou sa conjointe ce soir en rentrant, etc., etc., etc. L'idée, c'est de... Donc, scientifiquement, cela a été étudié. Qu'est-ce qui demeure à travers les relais et comment l'information est transformée au fur et à mesure des relais? Donc, dans les médias, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que quand France Presse communique sur quelque chose et qu'on lit un article qui est en fait le résumé de France Presse qui a été résumé par un autre journal entre-temps et encore par un autre et encore par un autre et qu'au final, l'information, on l'a sur un réseau social parce que notre voisine ou notre meilleure amie nous a forwardé l'info avec son petit commentaire, évidemment. Eh bien, en fait... Plus on s'éloigne de la source originelle du message, plus on a de risques que le message soit réduit et qu'il soit transformé, en fait. Et transformé, pas toujours comme il le devrait. C'est-à-dire qu'on observe des transformations qui ont un sens, notamment l'accentuation des éléments qui vont garantir que le message va être relayé. Alors, si je vous fais un exposé de 15 minutes sur ce que j'ai fait ce week-end, il est fort à parier que, en fait, vous ne serez pas en mesure de tout mémoriser, de tout rappeler. Non seulement parce que vous n'aurez pas forcément fait attention à tout ce que j'ai dit, mais aussi parce que vous n'avez pas les capacités de tout retenir. Donc, vous allez sélectionner ce qui vous semble pertinent, oublier ce qui vous semble pas pertinent et transmettre les choses en les accentuant, en les transformant d'une certaine manière pour vous garantir que ce message sera relayé par la suite. Donc, un chiffre peut-être à garder en mémoire, au bout de 4-5 relais dans l'information, on n'a plus que 30% du message original. Donc, quand on n'est pas au plus près de la source informationnelle, on a une perdition importante de la qualité de l'information. Alors, je vous donne quelques petits outils qu'on utilise en médiation scientifique pour aider le grand public à s'outiller contre, justement, ces biais attentionnels, ces biais de distorsion de l'information. J'ai envie de vous présenter ce qu'on appelle le curseur de vraisemblance. Le curseur de vraisemblance, c'est cette petite réglette grise sur laquelle vous avez un curseur qui se déplace de gauche à droite, qui va de pas du tout vraisemblable à tout à fait vraisemblable. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de respecter le silence ? Merci. Donc, face à une affirmation, comme par exemple « j'ai vu un signe blanc », eh bien, sur cette réglette, on estime le niveau de vraisemblance de ce que propose notre interlocuteur. Donc, un signe blanc, je pense que tout le monde en a vu un, c'est assez commun. Donc, notre curseur va être plutôt porté du côté tout à fait vraisemblable. Si on apprend à l'utiliser de manière systématique, eh bien, par exemple, j'ai vu un tronc d'arbre géant dans lequel une voiture peut passer. Si quelqu'un vous dit ça, vous vous imaginez du coup un arbre immense, très grand, et c'est pas quelque chose qu'on observe dans les forêts françaises, par exemple. D'accord ? Donc là, notre curseur de vraisemblance, assez naturellement, il va se déplacer un petit peu plus du côté pas du tout vraisemblable, à moins, bien sûr, que vous ne soyez au courant que dans les forêts de séquoia géants aux États-Unis, il y a effectivement des troncs d'arbres qui font plus de 5 mètres de large et dans lesquels, effectivement, pour certains, on a creusé des tunnels dans lesquels certaines voitures peuvent passer. Donc, comme c'est assez extraordinaire comme prétention, quand mon curseur il est du côté pas du tout vraisemblable, eh bien, je suis en mesure d'exiger de la part de mon interlocuteur une preuve qui soit, elle aussi, assez robuste, assez extraordinaire, hein, pour me convaincre, et donc pour que je finisse par considérer que cette assertion est peut-être vraie. Alors, qu'en est-il du cas numéro 3, évidemment, hein, j'ai vu un extraterrestre dans mon jardin. Bon, c'est une assertion totalement extraordinaire, où le curseur de vraisemblance est totalement du côté pas du tout vraisemblable, puisque jusqu'à présent, on n'en a jamais vu, sous cette forme encore moins. Donc, à cette assertion, eh bien, je vais demander en échange une preuve très importante, très extraordinaire, pour que je puisse être convaincue. Alors, je ne m'arrête pas dessus, mais sachez que ces preuves-là sont hiérarchisées, hein, en termes de fiabilité. Donc, on l'a vu, hein, témoignage n'est pas une preuve, même si ce témoignage provient d'un expert. Et ensuite, dans l'étagère des preuves, on a différents niveaux qui sont une classification de souvent d'essais expérimentaux qui visent la réplication, qui visent l'amoncellement en fait, de preuves de différentes natures issues de différentes sources, pour qu'au final, on puisse enfin distinguer ce qu'on appelle une croyance, donc quelque chose qui n'a pas de fondement, ou pas de fondement véritable, de ce qu'on va appeler la connaissance, donc qui, elle, est issue, assermentée, on va dire, d'un consensus scientifique, alors scientifique au sens très très large du terme, pas que les sciences expérimentales, mais qui relève plutôt de la connaissance. Moi, ce que j'aime bien comme métaphore, c'est utiliser celle de l'échafaudage, puisque, si on considère que la connaissance, c'est un échafaudage qui est très résistant, eh bien, à tout moment, néanmoins, il peut quand même finir par tomber si on l'ébranle suffisamment fort. Et c'est un petit peu ce que fait la démarche empirique, hein, c'est d'aller au plus près du terrain, au plus près de la vie réelle, et d'ébranler cet échafaudage. S'il reste en place, c'est que peut-être, en fait, on essaie de la connaissance. Si par contre il finit par tomber, et force est de constater que finalement c'était pas si sûr que ça, c'était pas si robuste que ça ce que l'on pensait, et donc il convient à ce moment-là de changer d'avis. Alors, une petite tâche que j'aime bien faire aussi, c'est pour vous montrer la force que peut avoir certains processus qu'on utilise. Je vais vous présenter une liste de mots, d'accord, qui sont des couleurs, et ces mots vont être d'une certaine couleur. Donc, ce que je vais vous demander de faire dans un premier temps, c'est de lire les 2-3 premières lignes tous ensemble, de manière collective, et de lire ce qui est écrit. On y va ? Donc, rouge, bleu, ok, donc une tâche finalement assez facile, assez automatique. Vous êtes tous des experts en lecture, hein, vu votre niveau d'études. Donc voilà, un processus assez automatique. Maintenant, deuxième tâche. Ce que je vais vous demander de faire, c'est non pas de lire le mot, mais de nommer la couleur de chaque mot sur la liste. Je fais avec vous au début. Donc bleu, rouge, vert, rouge... Qui s'est trompé au moins une fois ? Voilà. Donc, ce qui illustre cette tâche, hein, c'est c'est que pour pouvoir identifier la couleur, vous êtes dans l'obligation en fait d'inhiber un processus assez automatique qui est celui de la lecture et qui a plutôt tendance à prendre le pas sur la dénomination de la couleur. Et donc, il arrive dans cette seconde tâche qu'on ait plus d'erreurs que quand il s'agit de lire. Alors ça illustre ce qu'on appelle les processus de traitement de l'information. En réalité, dans notre cerveau, on procède de deux manières. Soit selon ce qu'on appelle le système 1, un système plutôt heuristique, donc c'est issu de nos apprentissages, hein, de notre expertise. Certaines tâches, on les a tellement faites qu'on est devenu expert et que c'est devenu automatique chez nous. On a des raccourcis mentaux qui nous rendent hyper rapides et hyper opérationnels sur ces tâches-là, qu'on a tendance à opposer à un traitement plus analytique, plus délibératif, qui lui, du coup, demande plus d'efforts cognitifs, plus de ressources, plus de temps également, et qui, lui, en fait, nécessite souvent une élaboration. C'est souvent celui qu'on met en place face aux situations nouvelles, par exemple, et qui n'est pas notre mode par défaut, parce qu'il est beaucoup plus coûteux. Donc ce traitement heuristique versus ce traitement analytique est illustré par cette tâche qu'on vient de faire, ça s'appelle l'effet Stroop, hein, où certains processus sont des réponses par défaut, là où d'autres réponses nécessitent une élaboration plus étayée et du coup n'est pas nécessairement le processus par lequel on va traiter les choses parce que il faut soit avoir un intérêt à le faire, soit avoir des ressources plus importantes pour le mener à bien, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a des études expérimentales qui montrent que le fait de amorcer les gens dans ce traitement plus analytique a des effets bénéfiques sur leur prise de décision et sur leur comportement. Donc, dans cette étude, par exemple, de Lutzk, face à des fake news sur le climat, les individus étaient donc invités soit à donner leur degré de confiance en cette fake news, soit à la liker, soit à la partager. Donc en situation contrôle, donc lisez ces fake news et puis dites-nous si vous êtes d'accord ou pas, si vous likez ou partagez ou non. Deuxième condition où on les incitait avec un petit guide à répondre aux quatre questions que vous avez sur la gauche, donc d'avoir un traitement plus analytique de ces taglines, de ces fake news, pour justement les aider à identifier qu'elles étaient des fake news. Et puis une troisième condition expérimentale où on leur demandait en plus de ces questions-là d'évaluer le niveau d'importance de chacune de ces questions pour discriminer les fake news des vraies infos. Et donc, ce que montrent les résultats sur ce graphique, hein, c'est que globalement, plus on incite les participants à analyser de manière délibérative l'information, moins ils ont tendance à faire confiance aux fake news, moins ils likent l'information et moins ils la partagent. Donc, il y a un effet bénéfique de cette incitation au traitement délibératif. Avec des petites tailles d'effet dans cette étude, mais qui sont encourageantes. Alors, le fait d'analyser de manière délibérative l'information, ça permet aussi de se prémunir contre un autre biais qui s'appelle l'effet de cadre. Donc, je vous donne par exemple cette infographie. Qui sont les anti-vaccins en France ? 35% d'hommes, 50% de femmes. Est-ce que dans votre représentation de la réponse à la question, c'est la même chose que qui sont les pro-vaccins en France ? Quelle est la différence entre ces deux images ? Bien, en fait, il n'y en a pas. C'est la même information. La seule chose qui a changé, c'est la manière de la présenter. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadre, c'est-à-dire que 35% sont d'accord ou 65% sont d'accord ou 35% sont contre les vaccins. C'est exactement la même chose en fait, hein. C'est le pourcentage inversé. Mais vous voyez bien que le message derrière, quand on le traite sémantiquement, il renvoie vraiment pas à la même idée. Est-ce que c'est les femmes qui sont anti-vaccins ? Ou est-ce que c'est les hommes qui sont pro-vaccins ? Donc, il se trouve que notre système cognitif, il procède hein, par cadre mental, justement. Donc, parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent, on a tendance à synthétiser, à réduire, à orienter. Et la manière dont un titre va être orienté, la manière dont un résumé va présenter les choses, cela constitue un filtre qui va nous induire dans une certaine interprétation au détriment d'autres interprétations qui sont peut-être finalement plus justes. Donc,
la littérature montre effectivement qu'en fonction de ce cadre, on n'obtient pas les mêmes comportements ou les mêmes jugements par la suite. Donc, je vous passe ces résultats. Je vous montre juste dans la presse écrite comment cela peut se traduire. Donc, vaccin, un médecin généraliste sur 10 a des réticences. Ben, c'est pas la même chose que la première ligne du résumé de l'article où 90% des médecins généralistes sont convaincus des bienfaits de la vaccination. D'accord ? Quand je dis que 1 sur 10 a des réticences, je dis que 90% sont d'accord. Alors, vous voyez bien que le cadre n'est pas le même et donc le message que je veux interpréter, lui non plus, ne va pas être le même. Donc en communication, c'est très important de connaître ses ressorts, puisque notre cerveau hein, est très sensible à cette manière de traiter l'information. Donc je m'arrête là parce que j'aurais pu faire plein d'autres petites expérimentations comme ça avec vous. Ça illustre qu'une fois que l'information elle est dans le système cognitif, dans le système de pensée, eh bien, chaque opération mentale qu'on va mettre en œuvre est potentiellement une source d'erreur, une source de biais, de mauvaise interprétation des choses. Et bien sûr, je vous illustre pas ça avec les émotions, mais nos émotions hein, sont souvent la cible de ces messages
de type fake news, parce qu'on sait que les émotions ont tendance, elles aussi, à modifier notre manière de traiter l'information. Enfin, une fois que l'information elle est élaborée dans notre système, qu'on a décidé de ce qu'on allait faire ou de ce qu'on allait dire, il y a une dernière étape souvent qui a lieu, c'est ce qu'on appelle l'ajustement socio-normatif. C'est quoi ? C'est, ok, donc ben moi je suis entourée d'antivax par exemple, et j'ai analysé que le message, bah, c'était une fake news et qu'en fait, non, la vaccination, c'est plutôt bénéfique pour la santé publique. Est-ce que pour autant, si je suis anti-vax et entourée d'anti-vax, je vais dire et je vais me comporter en disant, non, en fait, il faut se vacciner. Bah, la raison est que bien que je sache évaluer le message, je ne vais pas forcément aller le défendre dans le champ social parce que d'un point de vue social, il y a des conséquences à le faire ou à ne pas le faire. Et notre appartenance groupale, notre identité sociale, maintenir une estime de soi la plus positive possible pour ne pas être rejeté, pour ne pas être jugé déviant, c'est très important. Et c'est ce qui fait que souvent, dans un certain nombre de cas, notre évaluation de l'information est bonne. Mais au final, notre comportement ne montre pas qu'on a fait une analyse correcte de la situation parce qu'on a initié un ajustement social pour être adapté, en fait, pour être adapté à notre environnement. Donc, adaptation et exactitude, on voit ici que c'est deux notions qui peuvent parfois s'opposer. Donc, je passe un petit peu vite. Je voudrais juste... Je voudrais juste vous faire passer cette idée-là, parce que je vois que le temps, il file. Donc, si on reprend notre schéma depuis le début, donc, le traitement de l'information conduit à l'établissement de fausses croyances. La littérature a documenté que ces fausses croyances étaient corrélées avec un manque de culture scientifique, avec des explications du monde qui reposaient sur des intuitions plutôt que sur des démonstrations empiriques. Donc, par exemple, la pensée magique, hein, ou le fait de percevoir dans le hasard du sens. Donc, ces manières-là qu'on a de penser sont propices à l'établissement de fausses croyances. Donc, pour enrayer l'établissement de ces fausses croyances, la littérature a mis en évidence un certain nombre de pistes pour développer l'esprit critique, et notamment les enseignements sur la science et sur la méthode scientifique. Donc, enseigner la démarche expérimentale et les sciences, c'est-à-dire amener les gens à expliquer ce qu'ils observent sur la base de théories scientifiques qui ont été étayées par des données empiriques, et exemplifier également avec des exemples pseudo-scientifiques qui viennent mettre à mal certains principes de la science, eh bien, la littérature montre que cela est assez efficace et que c'est une manière de développer notre esprit critique. Alors, je vous donne un exemple. Dans l'étude de Wilson, sur une année de cours universitaire, il a déployé tout un programme lié à la pédagogie de la science et de l'esprit critique, et a abordé, en fait, pour illustrer ses principes scientifiques, des notions pseudo-scientifiques comme par exemple les médecines alternatives, l'astrologie, et des notions paranormales, donc l'existence d'entités extraordinaires comme les vampires, les aliens, l'expérience de mort imminente, etc. Et ce qu'il a observé, c'est qu'au bout d'un an, l'ensemble des croyances non fondées de ces étudiants ont toutes été réduites. À l'exception des superstitions, mais entre au début de l'année et à la fin de l'année, on observe une diminution de l'ensemble des croyances non fondées. Alors, petit bémol, il n'y a pas de groupe contrôle dans son étude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, ce qu'il souhaitait, c'était comparer l'impact de cette pédagogie scientifique en fonction du niveau de croyances religieuses de ses publics. Et ce que montre son étude, en fait, c'est que le bénéfice d'un enseignement scientifique est d'autant plus important que les gens sont croyants. Donc il y a une réduction des croyances chez tous les publics, des croyances non fondées chez tous les publics, mais cette réduction, elle est encore plus importante chez les publics croyants. Donc athées et agnostiques ont aussi leurs croyances qui diminuent, mais dans une moindre mesure par rapport aux catholiques et aux chrétiens de l'étude, et aux autres croyances religieuses également. Alors nous, on l'a fait sur des élèves de collège, 8 ateliers menés par des animateurs en médiathèque à Aubagne, où on abordait donc la question des critères de véracité de l'information. On parlait du curseur de vraisemblance que je vous ai présenté tout à l'heure, la notion de hasard avec les coïncidences, un petit peu d'épistémologie des sciences et de philosophie. On amenait les élèves aussi à échanger, à argumenter, à débattre. Et ce qu'on a réussi à montrer, c'est que leur niveau de croyance, les croyances paranormales, a diminué entre avant et après ces séances pédagogiques en comparaison à un groupe contrôle. C'est le schéma du haut, c'est le graphique du haut. Mais quelques semaines après cette intervention, la différence entre le groupe contrôle et le groupe expérimental redevient non significative. Donc notre interprétation de cela, c'est que si on fait des interventions one-shot et qu'il n'y a pas de relais dans le système culturel qui entoure l'enfant, eh bien, ces bénéfices en fait, ne sont pas dans la durée. En fait. Alors que sur les théories du complot, c'est le graphique du bas, là on observe que cette diminution, même quelques semaines après l'intervention, elle se maintient. En fait, la différence reste significative entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. Donc ça veut dire qu'enseigner la démarche expérimentale et les sciences, c'est une vraie piste pour développer notre esprit critique. Je vais conclure parce que du coup... Un petit mot peut-être sur le traitement de l'information, puisque jusqu'à présent, je vous ai toujours dit encourager un traitement délibératif basé sur la démonstration de la preuve, c'est une manière de développer notre esprit critique. C'est vrai, à ceci près que il faut pour cela être motivé à avoir un résultat qui s'approche de l'exactitude. Donc on a des travaux expérimentaux qui montrent que quand bien même les gens seraient incités dans un traitement analytique, délibératif, si l'objectif ce n'est pas la recherche de l'exactitude comme ça peut l'être pour le scientifique par exemple, mais que c'est de se défendre, de garder notre image sociale, notre appartenance groupale, eh bien cette motivation elle peut être un ennemi en fait à l'exactitude et donc un traitement systématique n'est pas une garantie absolue d'une plus grande exactitude. Encore faut-il qu'il y ait cette motivation à l'exactitude pour que cela soit vrai. Donc, pour conclure, avant que vous me posiez vos questions, pour exercer en fait notre esprit critique, trois points clés. Le premier, c'est avoir des connaissances sur le sujet. Parce que si on n'a pas la connaissance de la thématique, eh bien, il est difficile de savoir sur quels critères, sur quelles dimensions on peut juger de la véracité de l'information. Donc, avoir une connaissance du champ, avoir une connaissance de comment on pense pour développer notre pensée sous notre contrôle de notre volonté, en fait. Et à aussi avoir une idée de comment fonctionnent les médias, hein, c'est-à-dire la transmission de l'information, parce qu'un article scientifique, il n'est pas produit de la même façon qu'est produit un titre putaclic ou un titre de journaux en ligne. Deuxième chose, si on a ces connaissances et ces outils, eh bien, on peut expliciter tout un ensemble de critères sur lesquels on va évaluer la véracité de l'information. C'est ce qu'on appelle donc la qualité épistémique de l'information. Donc ça va nous permettre, sur tout un ensemble de critères, de déterminer si l'information elle est vraie ou fausse, correcte ou incorrecte. Et donc d'ajuster notre niveau de confiance sur cette évaluation. Mais tout ceci doit se faire sous une veille permanente de notre conscience, éthique, déontologique, avec ce but d'exactitude qui doit être maintenu tout au long du processus. Donc ça nous permet cette métacognition à chaque étape, en dessous, d'appréhender le contexte social, son influence, quelle est ma motivation dans l'histoire, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts qui peuvent être des menaces, directes ou indirectes, à ce que ce processus d'esprit critique remplisse son objectif. Donc trois mots-clés, les déterminants de l'esprit critique, l'aspect dispositionnel, avoir envie, une motivation à avoir les outils, c'est-à-dire avoir des processus d'évaluation de l'information qui soient opérants. Et puis, des motivations qui sont en lien avec nos buts ultimes de développer notre esprit critique. Et ça, ça appartient à chacun. Merci.
Est-ce que vous avez des questions ? Question. Stéphane, une question.
Est-ce qu'on peut, à un moment, si quelqu'un a plein de biais cognitifs, on voit qu'on prend tout le temps de travers, est-ce qu'on peut lui laver le cerveau? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des techniques?
Alors, Ça veut tout et rien dire, quelqu'un qui a plein de biais. Parce qu'en fait, on a tous un fonctionnement qui est lié à, d'abord, bah, les propriétés de notre processus intellectuel, hein, de notre cerveau. Mais on a aussi des filtres qui sont culturels et qui sont liés à notre expérience de la vie. Donc, on a toujours tort par rapport à quelqu'un d'autre et on a toujours raison par rapport à quelqu'un d'autre encore. Donc c'est la question du référentiel. Et en fait, un biais, il est déterminé par un référentiel. Si on arrive à se mettre d'accord sur les critères d'élaboration de la situation optimale ou exacte, alors il n'est plus question de toi, tu as des biais et moi, j'en ai pas. C'est à l'orée de ces référentiels communs sur lesquels on est d'accord, toi comme moi, on va mettre en place des étapes dans le raisonnement, des étapes dans l'évaluation de l'information qui devraient être les mêmes à chaque étape pour toi comme pour moi et donc aboutir au même résultat. Ou alors un résultat enrichissant parce que ton point de vue il est explicitement déclaré et l'autre point de vue l'est aussi. Donc après, c'est pour ça que je dis que l'esprit critique, il n'y a rien de plus social que l'esprit critique, c'est qu'il n'y a pas une manière de voir, il y a la situation vue de différents angles et c'est par le croisement de ces différents angles qu'il y a un standard qui émerge, qui est du coup la vérité entre guillemets s'il en est une, enrichie par des points de vue différents. Donc moi j'ai pas de problème à discuter avec les astrologues ou les fervents défenseurs de l'homéopathie parce que ils ont une façon de voir les choses qui a une raison, qui a un angle de vue très intéressant. Par contre, sur la question, par exemple, de l'efficacité de l'homéopathie en tant que substance active, bah, il convient de se mettre d'accord sur le référentiel de comment on teste l'efficacité. Donc, est-ce qu'il y a une substance active ? Bah, est-ce que si on fait une analyse de substance chimique, est-ce que tu penses que du coup on arrivera à se mettre d'accord ? Oui, non. Ok ? Donc si c'est oui, on l'a fait, on tranche. Après trois dissolutions, il n'y a plus aucune molécule active. Ok, donc quand on dit l'homéopathie ça marche, ou c'est efficace, de quoi on parle du coup ? Si c'est pas la présence d'une molécule chimique, c'est quoi ? Ah, l'effet placebo, ok. Parlons de l'effet placebo, tu vois ? Et donc au final, on a une réalité sur laquelle on se met d'accord pour l'analyser. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les définitions, les concepts, les conditions d'élaboration de la preuve, eh bien c'est une richesse de point de vue. Mais sur la réalité, il n'y a pas de... Elle est ce qu'elle est, quoi. Ça répond à ta question ?
D'autres questions ? Frédéric, une question ? Je sais pas, je vois, je cible les personnes qui seraient susceptibles de poser des questions, aidez-moi.
Vous avez mis en place auprès de jeunes publics et collégiens.
peut-être initialement le pouvoir des spécifiques, en gros la discussion qui vient du bruit, si on peut parler en termes de communication. Donc comment finalement, est-ce que c'est un travail au long cours qui viendrait saper un texte, le reconstituer, parce que finalement les travaux, comme d'autres d'ailleurs sur le sensationnalisme, les travaux de Gallimard et d'autres, on trouve ça aussi sur le bas, considérer du bavardage médiatique, on peut dire ça, mettrait à mal cette construction, comment on peut citer les opposés, mais en tout cas les connecter pour que l'un et l'autre aient un impact, sachant qu'on est dans deux domaines.
Alors, j'entends ici scientifique, pas que la démarche expérimentale, hein, qui est quand même, disons-le, la seule méthode qui permet d'établir la causalité, parce que sinon, enfin, moi, j'en connais pas d'autres, après, je suis preneuse si. Donc ces sciences, j'entends l'histoire aussi, j'entends qui ont chacun la géographie, la philosophie, qui ont leur propre méthodologie d'élaboration de la preuve en fait, hein, mais à un moment, alors ils appellent peut-être pas ça la preuve, notamment en philo, mais voilà, d'élaboration de ce consensus peut-être autour des questions de ce que l'on sait et de ce qui relève davantage de la croyance, et où là la subjectivité individuelle, sociale, culturelle peut apporter une dimension supplémentaire, voire être totalement déterminante. Ça dépend de quoi on parle. Donc je n'oppose pas, enfin je ne voudrais surtout pas que ces travaux-là, qui utilisent la démarche expérimentale pour tester l'efficacité des dispositifs, conduisent au raccourci qu'il n'y a que l'enseignement de la méthode expérimentale et de sa démarche qui permettent l'accession à cet esprit critique. Je vous rejoins sur l'aspect philosophique, hein, où on est plutôt d'accord sur l'idée que l'aspect compétence, capacité à évaluer l'information, à générer un raisonnement, une réflexion sur l'information au sens très large du terme, ne peut pas se faire sans justement ce que les philosophes appellent des dispositions, des styles de pensée, des habiletés à penser. Et moi, je connais bien les travaux de Fatchon, par exemple, qui justement documente différentes dimensions comme la curiosité, qu'est-ce que c'est la curiosité, la flexibilité, le désir aussi de croiser des sources différentes et où du coup la dimension sociale est vraiment déterminante. Et dans la compétence argumentation, on retrouve un peu cette idée-là où finalement la connaissance se construit par des échanges qui permettent d'éliminer plus rapidement les choses sur lesquelles on est tous d'accord que c'est pas bon et où du coup cela met en exergue une fausse idée sur le penseur critique qui le ferait tout seul dans son coin en fait. On ne peut pas être un penseur critique ou un penseur idéal, entre guillemets, sans cette dimension sociale qui est liée justement à l'échange, au social et à l'argumentation.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé à la connaissance sur la relation entre l'esprit critique et l'humanisme ?
Alors, je ne connais pas ces travaux du tout. Mais dans les recommandations éducatives qui montrent des effets bénéfiques sur l'esprit critique, il y a le recours à la technique de rire de certaines croyances, en fait. Ça a des vertus, le fait de rire de certaines idées et de, dans la classe, le concours de mauvaise foi, par exemple, c'est cet objectif-là, d'apprendre à maîtriser les rhétoriques fallacieuses à travers un concours de mauvaise foi où on défend une idée qu'on sait absolument fausse au départ, dans un but, en fait, de développer et de notre maîtrise de l'argumentation fallacieuse. Mais des travaux qui directement utilisent l'humour, j'avoue, je les connais pas, s'ils existent.
Des questions ? Moi, j'ai des questions. J'ai une question. Alors, je reviens pas, j'avais noté des points, mais tu es revenu pendant ta conférence. On parle beaucoup de post-vérité actuellement. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce mot, ce terme, ce concept ? Je sais pas comment le définir.
Alors moi non plus, dans mes travaux en psycho, ce mot n'est jamais utilisé. Post-vérité, est-ce que c'est pas un effet impact? Qu'est-ce que tu entends par ça, par post-vérité, toi?
Justement, je ne sais pas trop comment le définir. Je trouve qu'on l'utilise à tort et à travers, mais comment le définir par rapport justement peut-être à l'esprit critique? Est-ce que ça...
Alors comme ça, ça m'évoque peut-être l'idée que avant, on va dire que la connaissance était détenue par des experts, hein, c'était et par des autorités qui étaient reconnues comme légitimes, les scientifiques, les médecins, des choses comme ça. Aujourd'hui, du fait que tout le monde en fait est à la même, au même niveau, hein, en termes de producteur d'informations, peut-être que cette post-vérité est sous-entendue comme en fait, chacun peut avoir la sienne, et auquel cas, comme j'ai pu l'illustrer avec mes deux réponses précédentes, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. En général, quand on étudie la pensée critique, on est plutôt défenseur de l'idée qu'on peut être intransigeant avec les idées, pas avec les gens. C'est-à-dire que il faut être bienveillant avec l'humain, quelle que soit son idée. Par contre, il y a des idées, la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Et là, il n'y a pas de négociation possible. Donc peut-être que post-vérité, c'est cette idée-là, et auquel cas, je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme.
Avec ce terme, ok, merci. Je te rejoins alors. Un dernier point. Je te laisse. Quelle est l'histoire de l'esprit critique? Quel moment on a parlé d'esprit critique? Est-ce qu'il y a une évolution dans sa construction? Est-ce que ce sont les psychologues qui sont à l'origine de ce concept uniquement? Est-ce que c'est les philosophes? Est-ce que...
Alors, merci pour cette question. Effectivement... cette notion n'est pas nouvelle dans la littérature internationale. Et même ni dans la littérature francophone. En fait, cette notion, elle a été le sujet d'intérêt de principalement trois disciplines. La philosophie, évidemment. La psychologie cognitive, plus sur l'aspect compétence, donc processus de traitement de l'information. Et les sciences de l'éducation, qui ont des définitions qui ont pour limite l'opérationnalisation, parce que dans la manière d'envisager les choses en classe, il n'y a pas de possibilité de développer des indicateurs. En tout cas, ça renvoie à une terminologie qui est très vaste, très générale, et qui peine en fait à proposer des indicateurs pour le terrain de la pédagogie. Mais du coup, dans la littérature, on a vraiment trois champs disciplinaires qui se distinguent. Et quand on fait la revue de littérature sur cette notion d'esprit critique, on a vraiment cet éclairage de la notion par des disciplines qui, en plus, peuvent s'opposer grandement sur certains points. Donc, et bien sûr, la philosophie étant la première discipline à s'y être intéressée, évidemment.
Une autre question? Ouais, c'est le moment critique. On va peut-être. Moi, je ne sais pas comment formuler, mais il y a quelque chose qui m'interpelle à la télévision, c'est une chaîne RMC Découverte et qui fait des reportages. T'as montré les extraterrestres. Et c'est une question qui m'interroge ces temps-ci. Et je ne sais pas si tu les connais, ces reportages, où tout est monté de façon scientifique. Voilà, les extraterrestres seraient là. D'ailleurs, parler un témoignage personnel, puis quand tu es de rhésus négatif, tu as les yeux verts, apparemment tu serais d'origine extraterrestre, etc. Mais tout ça est fait, toi, de façon vraiment... Tout ça te rend crédible les choses, parce qu'il y a des témoignages de scientifiques, il y a des témoignages d'experts, etc. J'ai bien compris qu'ils exploitaient nos biais, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'ils exploitent aussi la légitimité de ce canal médiatique? Qu'est-ce qui fait que...
Eh bien, en fait, ça rapporte de l'argent, Cécile.
Ouais.
Voilà. alors, mon expérience des médias, et j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter, les journalistes nous contactent pour une production télévisuelle ou pour un article à publier dans la presse, peu importe. Leur démarche est toujours louable au départ parce que ils sont souvent naïfs sur le sujet, donc ils viennent nous voir pour être éclairés sur ces questions-là, au plus près de l'expertise scientifique la plus actuelle, etc. Et jusque-là, tout se passe bien, jusqu'au moment où on nous dit vous allez être sur le plateau avec des tenants, en fait, quels qu'ils soient. Où là, du coup, on est un petit peu moins d'accord parce que, sur certains sujets, la parole scientifique, d'un scientifique sur la question et d'un tenant sur la question, elles ne sont pas équivalentes, en fait. Donc ça, c'est le premier biais qu'on retrouve très souvent dans les médias, quel que soit leur sujet et la chaîne à laquelle ils appartiennent, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi l'aspect... ils viennent, ils ont déjà un agenda, ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent emmener les spectateurs sur la question. Et donc, on a énormément passé de temps avec les collègues de l'Observatoire à répondre à tout un tas de questions sur l'existence des fantômes, des aliens, etc. Vraiment, beaucoup sur le paranormal, effectivement, ou sur les médecines alternatives. Et au final, nos verbatims, en fait, soient découpés pour que, post-construction du documentaire, on alimente la thèse de tenant, en fait, et non pas... ou alors de proposer un scepticisme qui laisserait penser, souvent les documentaires finissent comme ça, que « mais la question reste ouverte, mais nous ne savons pas tout ». Et donc d'arriver à une conclusion où... ils savent que, de toute façon, ils ne peuvent pas fermer la porte à un sujet qui est rentable, en fait. Hein, parce que les gens, ils regardent ce genre de documentaire.
Ouais, y a une sérialité.
En fait. Y a une,
On attend. Ouais. Hein.
Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder le documentaire qui s'appelle Objectif Lune. Ne lisez rien dessus. Regardez-le de manière totalement naïve. Et puis, recontactez-moi après pour me dire à quelle minute vous n'alliez plus du tout bien. Objectif Lune. Sur le fait que nous n'avons jamais été sur la Lune.
Jamais
mais
été
que...
sur la Lune. Mmh. Ouais, c'est récurrent, c'est ancien. Pas d'autres questions ? Virginie, nous te remercions pour cette intervention.
Merci à vous. Merci.